radiocultura.eus.
Julie Rose habite à Bayonne, mais grâce au hasard des remplacements, exerce en tant que médecin généraliste à Hondres. Au départ, c'est l'envie de comprendre le fonctionnement du corps humain qui ont déterminé le choix de la médecine. Puis, conseillée par son directeur de thèse, elle s'est intéressée à la santé sexuelle. Julie nous dévoile pourquoi la santé sexuelle est un sujet majeur qui a une influence dans la qualité de vie des gens.
Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais je constate qu'il y a des gens qui ont renoncé à une certaine qualité de leur vie sexuelle. Le but, c'est de leur tendre la main et de leur dire, bah, en fait, si vous le souhaitez, parce qu'il n'y a aucune injonction à la sexualité, mais si vous le souhaitez, il y a des solutions qui existent. Bonjour, je m'appelle Julie Rose, je suis médecin généraliste, j'habite à Bayonne et j'exerce à Hondres, au sud des Landes, dans un cabinet de médecins généralistes. Bah, c'est vrai que je suis allée en fac de médecine très jeune, à 18 ans. Je pense que j'avais envie de comprendre comment fonctionne le corps humain. Et après, c'est plutôt le choix de la médecine générale et de la médecine de ville. Voilà, j'avais envie de soigner les gens du bébé de 3 jours qui sort de la maternité aux personnes âgées de 90 ans, 100 ans. Je trouvais ça très vaste comme possibilité et comme rencontre aussi avec les gens. Et j'ai fait ma thèse sur la santé sexuelle. Et donc j'avais aussi envie d'orienter certaines de mes consultations sur ce sujet-là de la santé sexuelle. C'est 6 ans d'études entre guillemets classiques plus 3 ans d'internat. Donc moi j'ai fait mes 6 ans d'études à Lille et j'ai fait mes 3 ans d'internat en Aquitaine. Et après ça, j'ai fait différents remplacements de médecins généralistes qui partaient en vacances ou de médecins généralistes qui partaient en congé maternité, etc. Ou aussi des remplacements au centre d'examen de santé de la CPAM de Bayonne, à la clinique AMAD qui est une clinique psychiatrique. Donc des choses assez variées. Et puis j'ai eu l'opportunité de m'installer à Hondres dans un cabinet médical qui me plaît bien. Et donc ça va faire maintenant bientôt 4 ans que je suis installée à Hondres. J'ai fait ma thèse sur la santé sexuelle et je me suis rendu compte que c'était un sujet que je trouvais assez majeur, qui a une vraie influence, je pense, dans la qualité de vie potentiellement des gens et aussi sur les représentations que les gens ont d'eux, des autres. Donc ça m'intéresse beaucoup de le faire dès finalement l'enfance avec la perception de son corps, le consentement, etc. L'adolescence aussi avec tout ce qui est prévention, dépistage, mais aussi chez les personnes plus âgées pour discuter que ce soit l'épanouissement sexuel ou le désir de non-sexualité, mais juste de un peu normaliser ces sujets-là et que le patient identifie que son médecin généraliste est un interlocuteur pour parler de ces sujets-là s'il en a envie. Je trouvais ça important de pouvoir être identifié comme tel. C'est vrai que la thèse, j'avais trouvé un directeur de thèse qui avait déjà trouvé une thésarde, on appelle ça une thésarde, qui faisait sa thèse sur comment les médecins généralistes abordent la santé sexuelle avec leurs patients. Et il cherchait quelqu'un pour faire l'autre versant de comment les patients aimeraient que leur médecin généraliste aborde la santé sexuelle. Et je trouvais ça absolument passionnant parce que souvent on nous dit quoi faire mais pas comment. Et donc là, c'était la manière d'amener en consultation des sujets pour lesquels c'est rare que le patient vienne consulter pour parler d'un sujet de santé sexuelle. Ça peut arriver hein, que le patient vienne pour parler de troubles de l'érection, vienne pour parler d'un dépistage d'infections sexuellement transmissibles, mais souvent c'est pas le premier motif de consultation et d'ailleurs souvent ils nous en parlent pas trop. J'ai beaucoup aimé dans ma thèse de réfléchir de comment amener le sujet Donc ça peut être par le biais du premier frottis, ça peut être par le biais d'une prescription de contraception, ça peut être par le biais d'un nouveau médicament contre la tension, par exemple, qui peut jouer sur les troubles de l'érection. Enfin, ça peut être par plusieurs moyens. Et ça m'intéressait vraiment de voir comment amener ces sujets-là sans que ce soit trop intrusif ou pas agréable pour le patient, parce que le but, c'est que ça lui serve à lui. Puis du coup, ça m'a permis d'interviewer, c'était quelque chose de pas trop scientifique comme thèse, d'interviewer des patients sur comment ils aimeraient qu'on leur parle de sexualité en consultation. Mais ça, j'ai trouvé ça très intéressant, très différent de ce que j'avais appris. En tout cas, pour les ados déjà, j'aime bien rappeler, enfin, et même chez les adultes, mais que tout ce qui se passe en consultation médicale ne sort pas du cabinet, on est soumis au secret médical. Ça, c'est vraiment hyper important, qu'il n'y a pas de jugement et que je ne peux pas répéter à qui que ce soit ce qui m'est dit. Donc déjà, ça réinstaure un peu le climat de confiance. Et après, je pense que plus on parle du sujet en étant serein, plus les gens en face se disent « Ok, elle en parle comme si elle parlait d'un sujet autre ». Enfin, sans dramatiser le sujet, et je pense que ça les met à l'aise aussi que, bah voilà, que les mots soient dits et qu'il n'y ait pas de gêne, en tout cas de ma part. Et après, souvent, je leur dis que s'ils n'ont pas envie d'en parler, on n'en parle pas. Enfin, ils n'ont aucune obligation de me répondre, mais souvent, ils sont plutôt assez surpris en bien que je leur en parle. Même dès la première consultation, souvent, on en discute via différents biais. Ça peut être aussi par le moyen de demander s'ils ont déjà vécu des violences, y compris des violences sexuelles. Et je me dis que même s'ils ne me répondent pas, ils ont entendu que ça m'intéressait, que c'était un endroit où ils pouvaient en parler. Et déjà, moi, juste comme je disais avant, d'être identifié comme interlocuteur sur ce type de sujet, je trouve que c'est déjà chouette. Je peux pas dire si c'est plus au Pays Basque ou dans les Landes qu'ailleurs, mais oui, d'une manière générale, les pratiques ont évolué. Moi, j'aime bien, avec les jeunes, parler un peu de pornographie, juste pour savoir où ils en sont là-dessus, parce que ça peut mettre la pression des deux côtés. Dans les rapports hétérosexuels, ça peut mettre la pression pour les filles de se dire « Ah d'accord, il faut que je sois OK pour l'ensemble de ces pratiques, et de manière immédiate, j'ai pas trop mon mot à dire, et pour que je sois désirable, il faut que je sois OK pour tout. » Donc juste de reclarifier ça. Et pour les garçons, toujours dans les rapports hétéros, ça peut aussi mettre la pression sur le côté « OK, il faut que je sois performant, en fait. » Que, ce qui compte, c'est d'assurer et juste de re-enlever de la pression et de re-humaniser un petit peu ces rapports sexuels qui sont dans la pornographie, ça reste de la fiction, juste de reclarifier que la pornographie, c'est pas la vie réelle. Maintenant, ils ont accès de plus en plus jeunes à la pornographie. Il faudrait que je regarde les chiffres, mais il me semble que c'était à partir de 11 ans, je crois. Donc finalement, ils ont quand même plusieurs années pour bien fantasmer ce qu'est un rapport sexuel avant d'en vivre un eux-mêmes. Et ils sont bien imprégnés de cette culture-là, donc juste d'en discuter un petit peu calmement avec eux, c'est toujours intéressant. Et après, pour les filles aussi, de discuter des fois de l'envoi des nudes, donc de photos d'elles plus ou moins dénudées, et de savoir si ça a été fait de manière complètement consentie, etc., ou s'il y a eu un peu d'insistance ou de forçage pour l'envoi de ces nudes. Juste de reclarifier ce qu'on a le droit de leur demander, le consentement, ce qu'on... Enfin, voilà. Donc, au début, j'avoue que je me... Enfin, pas que je me censurais, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment mon rôle de médecin généraliste de parler de ça? Et en fait, j'ai décidé que oui. Que finalement, je délivre un message, après ils en font ce qu'ils veulent, mais ça me plaît qu'ils entendent un petit peu de rappel. Ça peut être d'un point de vue médical, d'un point de vue un peu législatif, d'un point de vue... Enfin... Et après, ils font leur choix et voilà. Moi déjà, quand je fais la vaccination contre le papillomavirus, ça se fait vers 11-12 ans. J'explique souvent vers 11-12 ans, les préados sont en consultation avec leurs parents. Et j'explique à quoi sert la vaccination contre le papillomavirus. Donc de prévenir l'infection à papillomavirus HPV qui se transmet par rapport sexuel. Je dis que ça se transmet par rapport sexuel un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Enfin, en fait, j'aime bien dire ça juste pour normaliser complètement le fait que les rapports soient hétéros, homo. Et ça me plaît que le préado de 11 ans et ses parents entendre ça aussi, parce que je pense qu'en 2024, ça fait du bien encore de légitimer. Il y a tellement une hétéronormativité dans la société que c'est bien, je pense, d'entendre d'un professionnel de santé que bah, les rapports peuvent être différents de ce que la soi-disant norme nous inculque, quoi. À partir du moment où le sujet est lancé et que la personne en face est contente que le sujet soit lancé, finalement c'est assez fluide. Le but c'est que ce soit un échange. Si la personne en face a pas envie, je dis juste voilà, si vous avez envie, vous pouvez revenir une autre fois, on peut en discuter. Si vous n'avez pas envie, c'est complètement ok. Mais souvent ça se passe assez sereinement. Je pense que le plus difficile c'est finalement juste de l'amorcer au départ, mais une fois que le sujet est lancé et que la personne se rend bien compte qu'elle est dans un endroit safe pour en parler avec un professionnel de santé qui aura pas forcément toutes les réponses mais qui en tout cas pourra l'écouter, ce qui est déjà énorme, et éventuellement l'orienter, parce que on a aussi des sexothérapeutes, des sexologues, etc. qui peuvent recevoir le patient en complément si besoin. Alors après, chaque personne est différente, hein, mais c'est vrai que moi, je me rends compte, je parlais tout à l'heure de l'introduction de nouveaux traitements. Des fois, je peux introduire un traitement, oui, je sais pas, contre la tension, contre le diabète. Si je pose pas la question, la personne va pas forcément me dire que, je sais pas, un homme de 60 ans, que bah, ce médicament-là, ça lui a causé des troubles de l'érection, et que bah, du coup, soit il le prend pas, son médicament, ou soit bah, sa vie sexuelle est affectée et ça lui pose problème. Et ça, je trouve c'est important d'en parler. Après, ça peut être des filles aussi qui potentiellement ont mis leur propre désir ou leur propre plaisir en second plan par rapport à leur compagnon. Ça peut être des situations très différentes ou des femmes qui vivent une ménopause de manière pas très confortable et qui ont accepté le fait que, ok, bah maintenant, voilà, elles ont des sécheresses vaginales, leurs rapports sexuels sont douloureux, c'est comme ça. Et en fait, juste de leur dire, bah non, en fait, il y a des solutions, on peut avancer là-dessus. Ça me passionne parce que je fais essentiellement des consultations de médecine générale classique. Mais ça m'intéresse aussi d'aller chercher des gens qui seraient pas forcément venus pour parler de ces sujets-là, pour en parler. J'en parle pas du tout à chaque consultation, loin de là. Mais je sens que quand j'en parle, ouais, c'est un sujet qui m'anime. Mais j'aime bien aussi tous les autres aspects de la médecine générale. Ça me plaît. J'ai la chance de pas exercer en temps plein, donc ça me laisse du temps libre. J'aime beaucoup écrire. Et je fais des ateliers d'écriture toutes les semaines au Bocal, rue Maubec, à Saint-Esprit, à Bayonne, avec Laurent Platero comme super professeur. Et c'est vrai que ça m'anime beaucoup. Je parle pas nécessairement de médecine, de mes patients ou de santé sexuelle. C'est des sujets très variés. Et c'est vrai que c'est vraiment chouette de pouvoir développer un côté créatif. Parce qu'en médecine, c'est un métier passionnant, mais c'est pas forcément un métier créatif au sens propre. Je pense qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on écrit, qu'on est capable d'écrire des textes plus ou moins courts, plus ou moins rythmés. J'ai l'impression qu'on découvre un peu ce qu'on est capable. Et en atelier d'écriture, comme on est en petit groupe, on se nourrit aussi de ce que les autres proposent ou font avec la même consigne d'écriture. Et c'est toujours des moments très réjouissants et très riches. J'aime beaucoup écrire. Moi, ce qui m'anime, c'est de transmettre des émotions, soit lors de mes lectures en atelier d'écriture, soit il y a des scènes aussi un peu comme des scènes slam chez Corail, au Café de la Gare à Bayonne, une fois par mois. C'est vraiment des moments assez suspendus, assez magiques, où les gens écoutent, vraiment portent attention. C'est rare quand même des moments comme ça où les gens nous donnent leur attention pour écouter des textes qui sont dits au micro. Et c'est des très bons moments où, idéalement, moi aussi, pour être édité et être lu. Oui, je pense que l'objectif principal, c'est de susciter des émotions chez les autres. Après, on peut écrire sur soi, sur les autres, un mélange des deux, brouiller les pistes, écrire à la première personne, à la troisième. On se cache un peu comme on veut, mais l'idée, c'est d'être le plus authentique possible. Quand on écrit, je pense que c'est comme ça qu'on touche. Bien sûr que les mots sont hyper importants. Après, moi, je fais aussi beaucoup attention au rythme. Et j'aime bien quand ça bouge, quand il y a de l'action, quand une histoire est assez active, assez rythmée. Et surtout, je me répète, mais authentique. Enfin, j'ai besoin que les gens se disent « Ok, ça a pu exister, ça, peut-être c'est elle, peut-être c'est quelqu'un d'autre. » Mais parce que moi, c'est ce qui me plaît aussi de lire, c'est des histoires qui me parlent parce que ça me paraît possible. Après, c'est sans fin, on peut toujours retravailler son texte jusqu'au mot parfait. Moi, je suis pas trop perfectionniste là-dessus. Je préfère que le texte ait l'air vrai, même s'il n'est pas parfait, entre guillemets, mais que ce soit rythmé et que quand je le lise, j'ai plaisir à le lire. La langue basque, ma fille est à l'école à Saint-Esprit, Jules Ferry, en maternelle, donc elle est en section basque 4 jours par semaine. Donc elle m'apprend à compter les couleurs, les noms des animaux. Voilà mon niveau de basque actuellement, mais je chante avec elle en basque des chansons où je ne comprends pas forcément toujours les paroles, mais je les chante avec plaisir. Et j'espère qu'elle va m'apprendre de plus en plus de vocabulaire. Et cette année, je prends des cours d'espagnol, mais mon projet, ce serait de prendre des cours de basque peut-être l'année prochaine. On verra. Je sais pas pourquoi, mais quand j'entends des chansons vraiment en basque, je trouve que ça vibre. Il y a quelque chose d'assez mystique qui me fait vibrer. Et du coup, ça me touche et ça m'intéresse de pouvoir non seulement et chanter et comprendre bien les paroles. Puis on baigne dans cette culture, je trouve ça important de vraiment s'en imprégner et de comprendre quand il y a des affiches en basque dans la rue, des choses en basque. Ça m'intéresse de moi aussi comprendre ce qui se dit, ce qui se fait. Donc ouais, grâce à ma fille, je pense que je vais essayer d'attraper le train en route. Un rêve. Là, actuellement, j'ai écrit une histoire pour enfants. J'en ai écrit plusieurs que je lis à ma fille. Et j'aimerais bien le faire illustrer et que ce soit édité en livre pour enfants. Si je dois citer un rêve après, j'en ai plein, mais on va dire celui-là.
Radio Cultura. Puntueus.